Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Entre les deux hommes, les déclarations cinglantes se multiplient. La France devrait se tenir aux côtés d'Israël, déclare Benjamin Netanyahou dans le Figaro. Le Premier ministre israélien ne décolère pas depuis qu'Emmanuel Macron a appelé les États-Unis à ne plus livrer d'armes à l'État hébreu.
Nous tâchons de ne pas demander un cessez-le-feu tout en continuant à livrer les armes de la guerre. Et je pense que c'est simplement de la cohérence.
President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them.
La tension est encore montée d'un cran mardi lorsque la presse a rapporté une petite phrase lancée en Conseil des ministres par Emmanuel Macron qui appelait Israël à respecter les décisions de l'ONU.
Monsieur Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU.
La riposte n'a pas tardé.
Ce n'est pas la résolution de l'ONU qui a établi l'État d'Israël, mais plutôt la victoire obtenue dans la guerre d'indépendance avec le sang de combattants héroïques, dont beaucoup étaient des survivants de l'Holocauste, notamment du régime de Vichy.
Des dissensions qui contrastent avec cette image. Juin 1960, David Ben-Gourion, l'un des fondateurs d'Israël, est reçu à l'Élysée avec tous les égards.
Les liens d'amitié qui unissent Israël à la France sont multiples, profonds et j'en suis sûr, inébranlables.
Une amitié mise à rude épreuve après 1967 et la guerre des Six Jours. La France s'oriente vers une politique dite pro-arabe, notamment sous Jacques Chirac, que l'on se rappelle très remonté contre la sécurité israélienne à Jérusalem-Est. Alors aujourd'hui, les tensions vont-elles s'apaiser ou redoubler? Comment définir la relation entre Israël et la France?
Trois spécialistes du Proche-Orient ou Moyen-Orient, comme disent les anglo-saxons. David Kalfa, bonsoir, co-directeur de l'Observatoire du Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès. Votre livre Israël-Palestine, année zéro, paraît demain aux éditions Au bord de l'eau. Selon vous, Emmanuel Macron dit tout, et son contraire depuis un an, c'est vertigineux. Ses propos sur la création d'Israël donnent le sentiment d'un paternalisme néocolonial, laissant entendre qu'Israël devrait son existence à la bienveillance de l'Europe. À côté de vous, Agnès Levallois, vice-présidente de l'IREMO, spécialiste du Proche-Orient, votre ouvrage, Le Livre Noir de Gaza, est paru aux éditions du Seuil. Selon vous, la déclaration d'Emmanuel Macron ne remet absolument pas en cause l'existence de l'État d'Israël. Défendre ce point de vue est incompréhensible. Simplement, ajoutez-vous, Israël n'a de cesse de remettre en question les différentes résolutions de l'ONU. Et à côté de vous, Alain Leroy, bonsoir monsieur, diplomate, ancien secrétaire général adjoint de l'ONU, chargé d'opérations de maintien de la paix. Selon vous, les paroles en ce moment sont excessives, vous parlez comme un diplomate, mais la brouille entre la France et Israël n'est pas durable, les fondamentaux de cette relation sont extrêmement forts. Et on va démarrer ce débat avec la déclaration
du
jour.
C'est celle de Benjamin Netanyahou en réponse donc aux propos du président français sur la création d'Israël qui ont mis le feu aux poudres. Dire que l'ONU a créé l'État d'Israël est une affligeante distorsion de l'histoire, réplique le Premier ministre israélien dans un entretien au Figaro publié hier. David Kalfa, pour vous aussi, les propos du président français sont inexacts, c'est cela ?
Bah, vous n'aura pas échappé qu'Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou sont des hommes politiques. Et que donc, dans cette brouille, je pense qu'il y a une part aussi de calcul politique de part et d'autre. Pour Netanyahou, il s'agit de soigner sa base électorale. Mmh. Et au fond, et paradoxalement, la sortie du président, dont le moins qu'on puisse dire, c'est que, disons qu'il n'y a pas une continuité. Moi, ce que je lui reprocherais, c'est vraiment les contradictions. Parce qu'il y a un an, il faisait une déclaration très étrange en faveur d'une coalition internationale anti-Hamas sur le modèle de la coalition anti-Daesh. Et puis un an plus tard, il prend totalement une position inverse, ce qui rend notre diplomatie assez peu lisible. Et on sent aussi que du côté de Macron, il y a probablement la tentation, faire du domaine réservé du président après la dissolution ratée à l'Assemblée nationale, de quelque part de reprendre le flambeau un peu d'une espèce d'esprit gaullien face à un Premier ministre israélien qui s'est enfermé ces derniers mois dans un enlisement, notamment à Gaza.
Donc c'est d'abord politique pour vous, mais Agnès Levallois, sur les faits eux-mêmes, est-ce que dire qu'Israël a été créé par une décision de l'ONU, C'est vrai ou c'est inexact?
Bah oui, c'est vrai. Il y a une résolution de l'ONU qui est la résolution 181 et qui prévoit le plan de partage avec un État israélien, un État juif qui devient l'État d'Israël et un État palestinien. Donc cette résolution de l'ONU, elle existe et c'est ce qui fait que, eh bien, cet État d'Israël naît. Donc le fait que le président de la République déclare cela, moi, ne me choque en rien puisqu'il s'agit d'une réalité. Mmh. On voit bien que la réaction, en revanche, du Premier ministre israélien s'inscrit dans une logique actuellement qui est vraiment de remettre en cause les instances de l'ONU, et on voit bien que ça intervient aussi après les incidents avec la FINUL, mais ça je laisserai évidemment Alain Leroy en parler,
au Liban,
et on voit bien qu'il y a toutes ces attaques contre l'ONU, contre l'agence de l'UNRWA, qui est l'agence qui s'occupe des réfugiés, et que Israël n'a de cesse que de vouloir faire disparaître, estimant que cette agence ne fait pas son travail. Donc moi j'inscris beaucoup plus la réaction de Netanyahou à propos de cette déclaration dans un processus plus large, qui est de remettre en cause systématiquement ce que fait l'ONU, avec le sentiment, et je rappelle cette petite phrase quand même de Netanyahou lors de l'Assemblée générale de l'ONU il y a quelques semaines, où elle a estimé que c'était un marécage antisémite. Donc on est vraiment dans cette logique de Netanyahou de remettre en cause, eh bien, ce qu'est l'ONU.
Parce que c'est vrai que certains disent que c'est une façon de dire que ce que l'ONU a fait, l'ONU peut le défaire aussi.
Oui, alors j'ai lu cette interprétation qui paraît évidemment absurde. Personne n'imagine que l'ONU va défaire la création d'État d'Israël. Donc ça mérite d'être balayé par un revers de la main, cette assertion. En revanche, quand le Premier ministre Netanyahou dit c'est la guerre d'indépendance qui a créé Israël, simplement il se place sur un autre plan. Le président Macron se place sur un plan juridique, le président Netanyahou
sur un plan historique.
Le Premier ministre Netanyahou sur l'idée légitimité historique et puis la guerre d'indépendance de 48-49. Simplement, moi je rappelle, quand le Premier ministre Ben-Gourion, le premier ministre d'Israël, a dit le 14 mai 48 la création d'État d'Israël, la guerre d'indépendance, il l'a dit lui-même, je le cite, conformément à la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies 181. Donc c'est Ben-Gurion qui l'a dit, donc c'est difficile de dire l'inverse de ce qu'il a dit lui-même.
Mais dans ce cas, il faut citer Ben-Gurion dans son contexte. Enfin, dans la même déclaration, il a rappelé, avant de citer la résolution, qu'il a parlé de droit naturel du peuple juif à l'autodétermination. En fait, vous avez tout à fait raison. En réalité, les deux ont raison et les deux ont tort. C'est-à-dire qu'il se place sur un plan tout à fait différent, et je pense qu'il y a une espèce de, disons, de malentendu qui est entretenu par les uns comme par les autres. En fait, Macron se place sur un plan strictement juridique, et de ce point de vue, d'ailleurs, il y a quand même un tout petit bémol, je rappelle quand même que c'est une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, elle n'a pas donc vocation exécutoire en droit international, mais c'est une reconnaissance, c'est-à-dire que laquelle d'ailleurs, je le rappelle aussi, est le fruit de rapports de force sur le terrain. Parce que avant cette reconnaissance, cette résolution 180 de 1947, il y a la commission Peel, non, on est plus de 10 ans auparavant, et qui procède selon les mêmes paramètres, c'est-à-dire une séparation entre Israéliens et Palestiniens, un État juif, un État arabe. Pourquoi ? Parce que les Britanniques ont compris assez vite que la situation était devenue totalement ingérable sur le terrain.
En tous les cas, ces déclarations de Macron ont suscité une pluie de critiques, dont celle de l'ancien Premier ministre Manuel Valls.
Emmanuel Macron, en tout cas depuis le 7 octobre dernier, commet des erreurs, des fautes politiques, historiques, stratégiques, qui non seulement éthiques, qui non seulement l'affaiblissent, mais qui affaiblissent la parole de la France dans le monde et dans cette région. C'est comme s'il avait donné, à travers cette déclaration, un bail temporaire à Israël, sous réserve de bonne conduite, oubliant les conditions mêmes de la création d'Israël. Il ne comprend rien à ce qu'est Israël.
Agnès Levallois, ce que soulève Manuel Valls, c'est le risque d'alimenter le procès en illégitimité d'Israël, non ?
Non, je trouve que c'est très excessif d'aller jusque-là. Je ne vois pas pourquoi, à partir de cette déclaration, et moi je ne fais pas partie de ceux qui considèrent toujours que Macron, sur ce dossier, en tous les cas, depuis même un an, a toujours fait des bonnes choses. J'ai été très critique de ce qu'il a pu faire, avec effectivement un manque de visibilité dans la stratégie de Macron. Mais là, honnêtement, sur cette affaire, je ne comprends absolument pas comment on arrive à cette polémique qui, pour moi, n'a aucun sens. Il a rappelé une vérité historique. Alors, les deux hommes ne se placent pas dans la même catégorie, on l'a bien compris, mais il réaffirme un fait qui est un fait historique,
mais peut-être
et de là, de partir dans des délires comme quoi ça va remettre en question l'État d'Israël même, je trouve qu'on part dans quelque chose qui ne veut rien dire.
Mais parce que peut-être qu'il y a eu ce précédent aussi du 7 octobre 2023, certains estiment que ça marquait un tournant, l'absence d'Emmanuel Macron, notamment à la marche contre l'antisémitisme en novembre 2023, qui a été mal vue ici et en Israël.
Mais Emmanuel Macron, quand même, a reçu 5 fois de suite Netanyahou depuis qu'il est président de la République. Donc on ne peut pas dire qu'il ait réservé un mauvais sort à ce Premier ministre avec lequel la relation est quand même compliquée, difficile, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc il s'est rendu en Israël quand même et de façon très forte pour affirmer le soutien de la France, que certains ont pu lui reprocher de le faire de façon aussi forte. Donc je trouve que ce procès qui est intenté aujourd'hui à Emmanuel Macron sur cette déclaration précise, il y a d'autres points sur lesquels je pense qu'on peut tout à fait critiquer ce qu'il a fait depuis un an. Mais sur ce point, honnêtement, je trouve que la discussion me paraît n'être absolument pas fondée.
Alain Leroy, mais voilà, peut-être sur ces allées et venues du président de la République, sur cette politique qu'on a du mal à définir et à caractériser, est-ce que ce n'est pas là ce qui déclenche aujourd'hui cette mésentente, cette brouille? Cette incompréhension.
Moi, je reviens sur cette brouille, enfin, ce problème des derniers jours, sur cette déclaration sur l'ONU. Le contexte, c'est simplement, c'est que quelques jours auparavant, les forces israéliennes avaient tiré sur l'un sur une guérite, l'autre un char qui avait enfoncé une porte d'un bâtiment de l'ONU, ce qui était absolument inacceptable, condamné par l'ensemble des participants,
au Liban,
pas seulement par la France, au Liban, par l'ensemble des participants à ces casques bleus, des pays participants à ces casques bleus, condamné par l'Union européenne, bien, donc bien. Et ce que je pense que ce que voulait dire Monsieur le Président Macron, c'était aussi, c'est un peu dommage de tirer sur l'ONU, alors que l'ONU a été très utile à Israël dans beaucoup de circonstances. On l'a rappelé en 1947, mais pas seulement. L'accord de cessez-le-feu, la trêve de 1949, l'opération des casques bleus pour superviser la trêve, très utile pour l'ensemble des parties, en particulier pour Israël. Une opération sur le Golan au cours des casques bleus de l'ONU qui aussi évite l'escalade. Et puis même la finule que j'entends évidemment...
Donc la force d'interposition de l'ONU au sud de Liban.
Au sud de Liban, la finule au sud de Liban, qui a été créée depuis en 1978 et renforcée en 2006 avec 10 000 hommes, dont des Italiens, des Espagnols, des Français et beaucoup d'autres nationalités, des Gadéens, des Indonésiens. Là-dessus, j'entends dire maintenant que la finule doit partir. Je vais te dire deux choses. D'abord, le 28 août de cette année, il y a pas plus d'un mois, le Conseil de sécurité, à l'unanimité, a voté le renouvellement de la finule, bien, à l'unanimité, donc les Américains. Moi, quand j'ai quitté mes fonctions en 2011, j'ai reçu une lettre du chef d'état-major israélien de l'époque, Gabi Ashkenazi, me remerciant pour tout le travail qu'avait fait la finule. J'avais reçu les remerciements des Libanais, mais également des Israéliens. Donc, dire que la finule, elle ne vaut rien... Ben, c'est pas ce que disait le chef d'état-major israélien.
Alors, on revient à la brouille franco-israélienne et on va évoquer avec vous, Anna, le fait qu'Israël ne soit pas invité cette année au salon Euronaval.
Oui, il n'y aura pas de stand ni de présentation de matériel militaire israélien au salon Euronaval qui doit se tenir près de Paris début novembre, ont annoncé les organisateurs, et cela à la demande du gouvernement français, ont-ils tenu à préciser. Alors cette intervention, elle intervient alors que Paris réclame l'arrêt des livraisons d'armes utilisées par Israël à Gaza et au Liban, mais la porte-parole du gouvernement n'a pas confirmé cette information pour le moment. En tout cas, Yoav Gallant, le ministre israélien de la Défense, lui, a immédiatement réagi sur X. Pour lui, cette décision est une honte. La France ne cesse de mettre en œuvre une politique hostile à Israël et elle ajoute que cette discrimination aide les ennemis d'Israël. En temps de guerre. Alors, ce n'est pas la première fois que le gouvernement français boycotte les entreprises de défense israéliennes. Au mois de mai, juste après le bombardement d'un camp de déplacés à Rafah, 74 entreprises israéliennes avaient déjà été bannies du salon de défense et de sécurité terrestre, l'Eurosatory, qui est l'un des plus grands salons d'armement au monde. David Kalfa, en refusant la présence de ces entreprises, finalement, Emmanuel Macron, il est assez droit sur sa ligne, qui est de vouloir interdire la livraison d'armes et puis obtenir peut-être un cessez-le-feu. C'est assez cohérent?
Droit sur sa ligne, non, parce qu'en l'occurrence, encore une fois, si on rembobine, l'année dernière, il était plutôt sur une ligne qui... très droitière, d'ailleurs, quasiment en épousant celle du gouvernement de droite et extrême droite israélien de coalition internationale anti-Hamas. Donc là, il y a un revirement à 180 degrés.
Ensuite, depuis ces dernières semaines.
Alors oui, là, de ce point de vue, on peut constater une cohérence. Après, il ne faut pas non plus être naïf des arrière-pensées. C'est-à-dire qu'en réalité, Israël et la France sont concurrents sur le marché de la vente d'armes, parce que, notamment sur la question des systèmes de missiles antimissiles, de la défense antiaérienne, les Allemands ont acheté le système Arrow, la France a vu ça d'un très très mauvais œil, ça a particulièrement agacé à l'Élysée.
Donc ce sera une rétorsion économique.
D'Orsay. Je pense qu'il y a, dans ces frictions, ces problèmes de communication entre la France et Israël actuellement, des règlements de compte politiques, sans doute une frustration d'Emmanuel Macron qui est liée aussi à un sentiment d'impuissance, notamment sur le dossier libanais, parce que traditionnellement la France a un rôle historique de protecteur du Liban, et puis par ailleurs aussi sans doute quand même des calculs qui sont liés encore une fois à cette concurrence entre la France et Israël sur la livraison des armes, parce qu'on est, la France compte parmi les pays les plus exportateurs d'armes au monde.
Oui, Agnès Levallois, en même temps, ce que dit Israël, c'est lancer aussi des avertissements au Hezbollah, pas qu'à nous. Voilà aussi ce que réplique le gouvernement, une sorte d'Israélien de poids, de mesure qui n'est pas exprimé par la diplomatie française et notamment par le président de la République.
Mais ce qui est sûr aussi, je pense, dans toute cette tension qui existe actuellement, c'est que la situation s'est tellement dégradée sur le terrain. Je parle dans la bande de Gaza et maintenant avec l'opération qui est menée au Liban, que la position d'Emmanuel Macron depuis le début, qui était en soutien à Israël dans l'opération menée dans la guerre menée à Gaza, plus le temps passe et plus les dégâts sont énormes dans la bande de Gaza, le nombre de morts, les destructions qui sont absolument phénoménales, eh bien la position aussi d'Emmanuel Macron devient plus difficile à tenir et donc il se doit de prendre une certaine distance et de dire qu'il serait temps maintenant de négocier un cessez-le-feu
et
que si on veut négocier un cessez-le-feu, il faut effectivement arrêter la livraison d'armement. Le seul bémol, c'est de toute façon que la France ne livre pratiquement rien. Donc le président peut faire cette déclaration, mais les conséquences sont quand même extrêmement limité, et je pense qu'effectivement il y a une grosse frustration aujourd'hui de la part d'Emmanuel Macron par rapport à ce qui se passe au Liban. Le fait que l'annonce de l'assassinat de Hassan Nasrallah intervient pratiquement au moment où la France et les Américains proposent un cessez-le-feu, et que donc tout ça fait que il y a un sentiment maintenant, on s'exprime, et maintenant on s'exprime clairement parce que Netanyahou n'écoute rien, a l'air d'écouter, mais n'en fait finalement qu'à sa tête.
Alors, on va revenir sur les différents mouvements et moments de la relation entre la France et l'État d'Israël. Et je vous propose de regarder une archive pour évoquer l'histoire tumultueuse et contrastée de la relation entre la France et Israël. Novembre 67, à peu près 6 mois après la guerre des 6 jours remportée par l'État hébreu sur une coalition de pays arabes, le général de Gaulle donne une conférence de presse et il utilise une locution extrêmement problématique. Il parle de peuple juif. Regardez.
Certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur, n'en viennent, une fois qu'ils seraient rassemblés dans le site de son ancienne grandeur, n'en viennent à changer en ambition ardente et conquérante les souhaits très émouvants qu'ils formaient depuis 19 siècles, l'an prochain à Jérusalem.
Alain Leroy, cette déclaration a marqué une rupture sur fond d'antisémitisme tout de même, non ?
Alors, je sais bien que cette déclaration a beaucoup marqué. Raymond Aron en particulier, il avait fait souvent référence. Mais moi, je rappelle aussi la déclaration que vous avez citée préalablement de David Ben-Gourion en disant « Les liens entre la France et Israël sont multiples, profonds et inébranlables. Inébranlables malgré tous les coups de froid ici ou là. Il y a en ce moment une période de refroidissement, comme il y en a eu après cette déclaration du général de Gaulle. Mais les fondamentaux de la relation entre la France et Israël, l'amitié, il y a 100 000 Français qui vivent en Israël.
Mais ce n'est pas de là que naît la confusion entre antisionisme et antisémitisme ?
Non, enfin, je crois qu'en aucun cas, on pourra accuser le général de Gaulle d'antisémitisme.
Voilà, mais qui a donné une tonalité particulière à cette relation.
Moi, je veux bien qu'on nous explique que les fondamentaux, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais cette déclaration, manifestement, quand même, est très nauséabonde. Il y a des relents. Le fait d'essentialiser d'abord de ne pas parler des Israéliens, il dit les Juifs. Et puis ensuite, de tout temps. Donc il y a vraiment une essentialisation des Juifs comme peuple d'élite, dominateur, etc. Alors là, c'est un trope antisémite classique. Le fait de parler des Juifs comme d'un peuple dominateur. Et donc ça a choqué. Et en effet, il y a ce texte fameux de Raymond Aron, la France, Israël et les Juifs, ou c'est peut-être la France, les Juifs et Israël. Donc Aron, qui était un gaulliste et qui a été bouleversé par cette déclaration du général de Gaulle. Mais je crois qu'elle traduisait aussi, alors, outre peut-être chez lui, une forme de vieil antisémitisme catholique. On sait qu'il a été proche, au début, tout début de sa carrière, des réseaux de l'Action française. Donc il avait une culture absolument protéiforme. Mmh. Et il a peut-être puisé dans ses vieux poncifs antisémites. Mais il y avait aussi surtout un revirement après 67 qui était lié tout simplement à la période de décolonisation. C'est-à-dire qu'il y a une alliance stratégique de la France, notamment vis-à-vis de l'Algérie. Mmh. Le retrait des forces françaises de l'Algérie a complètement modifié la stratégie française au Levant.
Mais Agnès Levallois, vous diriez qu'il y a toujours une volonté d'équilibre aujourd'hui au Quai d'Orsay entre un soutien à Israël, la condamnation de sa politique de colonisation d'un côté, et aussi soutenir l'existence d'un État palestinien. Est-ce que le Quai d'Orsay arrive à maintenir cet équilibre qu'il a toujours souhaité afficher ?
Alors je dirais que le Quai d'Orsay aujourd'hui est complètement marginalisé, que ce n'est pas du Quai d'Orsay que part la définition de la politique et que la politique est largement menée à l'Élysée, et ce qui pose bien d'ailleurs, qui crée des tensions avec les diplomates qui se sentent marginalisés et qui n'ont pas le sentiment d'être écoutés comme ils aimeraient être écoutés, et qu'il y a des décisions qui sont prises par Emmanuel Macron sans que le Quai d'Orsay soit au courant. Et effectivement, la référence à la fameuse coalition anti-Hamas à l'image de la coalition anti-Daesh, aucun diplomate n'était au courant au Quai d'Orsay de cette déclaration lorsqu'il l'a prononcée au sortir d'un entretien avec Netanyahou. Donc il y a vraiment un malaise quand même aujourd'hui au Quai d'Orsay, du fait de sentir qu'ils sont marginalisés et qu'Emmanuel Macron a sa propre logique qu'on ne comprend pas toujours, ça c'est une évidence, et que les dernières déclarations montrent effectivement, même si, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, je trouve que honnêtement, cette déclaration-là ne méritait pas cette
polémique. Celle qu'on a évoquée au début. Mais alors, donc, entre le Quai d'Orsay, qui a bien du mal à comprendre ce que fait Emmanuel Macron, qui est parfois illisible, Alain Leroy, est-ce qu'on peut imaginer que la France pourra quand même jouer un rôle politique dans le cas précisément de l'élaboration d'une solution politique, le jour où un cessez-le-feu sera imposé, peut-être, il faudra bien une solution politique. Est-ce que la France pourra être un acteur ?
Alors d'abord, parce que sur le fond, il me semble que les autorités françaises, quel que soit l'endroit du côté de la scène dans lequel elles se trouvent, sont pour la même position équilibrée d'une solution à deux États. La position ne change pas, c'est la position de fond de la France. Et quand vous dites la France critique Israël à propos des livraisons d'armes, et vous ne dites pas le Hezbollah, mais la semaine d'avant, elle avait critiqué le Hezbollah, l'Iran était sanctionné il y a encore quelques jours, donc ce n'était pas dans la même phrase. On peut pas dire que la France, on peut pas dire que la France ne condamne pas le Hezbollah, elle la considère comme une organisation terroriste, voilà. Donc ça c'est parfaitement clair. Donc est-ce que la France peut jouer un rôle ? Ce qui est plus embêtant, me semble-t-il, c'est que l'Union européenne elle-même est divisée. Vous l'avez bien vu sur les livraisons d'armes, etc. Ça c'est plus embêtant. Absolument. Et qu'évidemment le poids de la France serait plus fort si toute l'Union européenne sur ce dossier était unie, ce qui malheureusement n'est pas le cas et depuis un certain nombre d'années.
Et je pense que la France toute seule ne pourra pas faire grand chose. Puisque
c'est à l'échelle de l'Europe que ça se joue. À minima,
c'est à l'échelle de l'Europe, puisqu'il y a les États-Unis d'un côté, on le voit, c'est eux qui ont les leviers aujourd'hui sur ce dossier et personne d'autre. Et si l'Europe pouvait exister en tant que telle, eh bien, elle pourrait représenter un des leviers qui serait du coup utilisé dans ce cadre-là.
Et vous aurez noté que le 26 septembre, la proposition de cessez-le-feu, elle était américano-française. Les Européens s'y sont mis derrière, mais c'était la France a pris l'initiative avec les Américains. Et on avait même cru que les Américains avaient cru que Netanyahou l'avait accepté.
Autant sur le Liban, je pense que c'est jouable. Merci. Sur la question israélo-palestinienne, ça sera plus compliqué.
Merci à tous les trois d'avoir participé à notre débat du jour.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.